7h10 à Paris, 8h10 à Port-au-Prince. C'est l'heure du journal d'Haïti et des Amériques. Avec vous, Pauline Glaise, bonjour.
Bonjour Fanny, bonjour à tous et bienvenue. Des milliers de Vénézuéliens fuient la crise économique. Certains tentent de trouver refuge au Brésil. L'an dernier, ils étaient 17 000 Vénézuéliens à déposer une demande de visa en tant que réfugiés. Ils pourraient être 10 fois plus nombreux cette année. Cet afflux provoque des tensions à la frontière. Hier, le président brésilien Michel Temer s'est rendu sur place. Les précisions d'Arim Lipold dans un instant. On ira également en Colombie. Le président Juan Manuel Santos émet des réserves sur une reprise éventuelle des pourparlers de paix avec l'ELN. Plus de budget pour l'armée et un déficit qui se creuse. Donald Trump a présenté son projet de budget pour 2019. On en fait le tour dans la revue de presse de Marie Normand. Et puis on fera une pause télé. Au Pérou, des chefs cuisiniers proposent aux téléspectateurs des recettes astucieuses, des recettes contre la vie chère ou les désordres alimentaires. Et on commence notre tour des Amériques au Brésil et plus précisément dans la région amazonienne. Depuis des ans, l'état de Roraima accueille des réfugiés vénézuéliens qui fuient la crise économique et politique. Ces derniers mois, le nombre de personnes qui a traversé la frontière a quadruplé. Dépassées par cette crise humanitaire sans précédent, les autorités locales ont lancé un appel au secours. Arim Lipold, bonjour.
Bonjour Pauline.
Alors ces autorités ont-elles été entendues? Vous allez nous le dire. En tout cas, hier, le président Michel Temer s'est éloigné des festivités du Carnaval de Rio pour se rendre à Boa Vista, la capitale de l'état de Roraima.
Oui, Boa Vista qui accueille en ce moment environ 40 000 réfugiés vénézuéliens, soit plus de 10% de sa population. Au total, plus de 70 000 Vénézuéliens ont traversé la frontière brésilienne depuis 3 ans. Leurs conditions de vie sont précaires. Beaucoup de réfugiés dorment dans la rue. Certains ont trouvé un abri dans des camps de réfugiés mis en place ces dernières semaines par des ONG internationales. Pour le gouvernement brésilien, en tout cas, il y a urgence. Mais ceux qui attendaient des réponses concrètes de la part du président Michel Temer lors de sa visite hier ont été déçus.
Et que je suis ici, préoccupé.
Je suis bien sûr préoccupé par ce qui se passe à Roraima. Roraima fait partie du territoire national. Si nous ne prenons pas de mesures au niveau fédéral, cet afflux important de Vénézuéliens créera des problèmes, non seulement pour l'état de Roraima, mais aussi pour d'autres états brésiliens.
Oui, alors quelles mesures compte-t-il prendre? Eh bien, pour l'instant, c'est très vague. Le président a annoncé la création d'une task force militaire pour sécuriser la frontière. Une aide fédérale sera débloquée, mais pour l'instant, on n'a aucune idée de son montant.
Le président semble être plus inquiet, en fait, par l'aspect sécuritaire que par les conséquences sociales qu'entraîne l'arrivée des Vénézuéliens.
Exactement. La priorité est, selon lui, de protéger l'intégrité territoriale de l'état de Roraima et aussi l'économie locale. Concrètement, il ne souhaite pas que les Vénézuéliens concurrence les Brésiliens sur un marché de l'emploi déjà très restreint dans cet état pauvre. Beaucoup de réfugiés ont trouvé du travail en fait sur des chantiers locaux pour des salaires évidemment très bas. Preuve que le gouvernement aborde cette crise sous un angle sécuritaire. Pauline, c'est un général à Brasilia qui doit gérer ce dossier au niveau fédéral.
Et en revanche, malgré tout ça, Arim, il n'est pas encore question de fermer la frontière.
Oui, contrairement à la Colombie qui a annoncé, rappelez-vous, il y a quelques jours, un contrôle plus strict des Vénézuéliens à sa frontière, le Brésil continuera à accueillir les réfugiés. Les frontières restent donc ouvertes. Il faut dire aussi qu'il est impossible de contrôler cette frontière longue de 2000 km en pleine Amazonie. Mais comme la Colombie a durci ses conditions d'entrée, les autorités brésiliennes craignent que les Vénézuéliens se dirigent désormais vers Roraima.
La frontière reste ouverte, mais les Vénézuéliens ne sont pas toujours les bienvenus au Brésil, Arim.
Oui, plusieurs d'entre eux ont déjà été victimes de violences. Le climat hostile à leur égard trouve aussi un écho dans les médias locaux qui dramatisent la situation.
Volta para falar agora da invasão de venezuelanos em Roraima.
Vous avez peut-être entendu la présentatrice d'une chaîne de télévision parle d'une invasion de Vénézuéliens. Le journal O Globo lui qualifie aujourd'hui dans son éditorial l'actuelle crise humanitaire de bombe vénézuélienne et se réjouit que le gouvernement fédéral prenne enfin le problème à bras le corps. Reste à savoir quelles actions concrètes il va entreprendre. Le président Temer a déjà prévenu hier, il laissera ce dossier à son successeur qui sera élu en octobre prochain.
Voilà, on le voit, hein, la crise au Venezuela, donc des répercussions sur ses voisins. Merci Achim Lippold. Et de cette crise et de ses répercussions, on en parle aussi dans votre revue de presse, Marie Normand. Et le constat n'est pas plus positif, Marie.
Oui, car ces Vénézuéliens qui fuient la crise économique, on l'a dit, sont encore plus nombreux à traverser la frontière colombienne. Semana propose cette semaine un long reportage sur le voyage semé d'embûches de ces migrants qui cheminent à travers le désert de la Guajira dans le nord-est de la Colombie. À noter aussi aujourd'hui ce reportage en une du Washington Post. Le journaliste soutient que ces derniers mois, dans l'ensemble du Venezuela, des centaines d'enfants ont été abandonnés par leurs parents pour des raisons économiques. Et des parents qui réalisent l'impensable, écrit-il, car ils n'ont plus les moyens de les nourrir ou de les soigner. Aucun chiffre officiel, impossible de pénétrer dans ces orphelinats publics, mais sous couvert d'anonymat, un responsable qualifie la situation de catastrophique.
Direction à présent la Colombie, où la grève armée de l'ELN, la dernière guérilla encore en activité du pays, a pris fin hier soir. Un soldat a été tué dans le département d'Antioquia, mais l'ELN a dit être prête à reprendre les négociations de paix. Le président Juan Manuel Santos ne s'est pas montré très enthousiaste à cette idée.
Vraiment, l'ELN a fait un acte de totale incohérence. Nada más contrario a la voluntad de paz que un paro armado.
L'ELN agit de nouveau de manière totalement incohérente. Il n'y a rien de plus contraire à la volonté de paix qu'une grève armée. Reprendre le dialogue va donc être très difficile. Voilà ce qu'a déclaré Juan Manuel Santos. Mais alors, avec ces trois jours de cette grève armée, l'ELN a-t-elle frappé un grand coup? Quel bilan peut-on dresser de cette grève armée? Les précisions de notre correspondante Marie-Ève de Teuf.
Le bilan de l'offensive de l'ELN fournie par l'armée fait état de 20 actes terroristes, essentiellement des bus, des camions et des péages incendiés. Une douzaine d'autres attentats auraient été déjoués. Maigre bilan pour les Elenos qui ont quand même réussi à perturber l'activité économique et politique dans leur fief. Nombre de commerçants ont préféré ne pas ouvrir. Les candidats en campagne pour les législatives de mars ont évité certaines communes. L'ELN maintient son pouvoir de nuisance. Le président Santos, qui quitte le pouvoir dans 6 mois, aurait évidemment souhaité signer la paix avec l'ELN, prix Nobel oblige. Il a suspendu les négociations de paix fin janvier, après un attentat qui avait causé la mort de 5 policiers. Il ne les a pas rompus. Mais Santos est attaqué par la droite dure, qui lui reproche de négocier avec des terroristes. La récente démonstration de force de l'ELN et la perspective des élections rétrécissent sa marge de manœuvre. Marie-Ève de Teuf, Bogota, RFI.
Un retour à notre revue de presse, Marie Normand. Aux États-Unis, l'administration Trump a envoyé au Congrès son projet de budget 2019. En résumé, Marie, les dépenses militaires sont dopées et le déficit s'alourdit.
Oui, il est même projeté à perte de vue, écrit le Los Angeles Times. Le parti républicain a placé les réductions d'impôts avant l'équilibre budgétaire sur sa liste de priorités, ce qui est en général le cas à chaque mandat républicain, consent le journal. Mais les précédentes administrations s'étaient au moins efforcées de présenter un budget équilibré sur le papier. Même le pourtant très conservateur Washington Times s'étonne aujourd'hui que, contrairement à l'année dernière, on n'essaye même pas d'équilibrer le budget fédéral sur 10 ans.
Le déficit augmente et en parallèle, note le New York Times, le projet réduit les dépenses dans l'assurance maladie, les transports et d'autres services gouvernementaux essentiels.
Et pour le Washington Post, Pauline, ce budget est le contraire de ce qu'aurait fait un gouvernement responsable. L'irresponsabilité fiscale est la marque de la gouvernance populiste, ce qui place, selon le journal, l'administration Trump au même rang que Chavez au Venezuela ou encore Perón en Argentine. La gueule de bois économique et politique est toujours douloureuse, conclut-il.
Et puis, vous le savez, les sénateurs démocrates ont voté un accord budgétaire la semaine dernière pour cette année. L'une des contreparties, c'était la promesse de l'ouverture rapide d'un débat sur l'immigration. Le Sénat a commencé à plancher sur le dossier, en jeu notamment le sort de 2 millions d'immigrés arrivés mineurs sur le territoire. Direction Chicago, où 4 hommes noirs emprisonnés à tort pendant plus de 20 ans portent plainte contre la police, Marie.
Et notamment contre 2 enquêteurs déjà connus, rapporte le Chicago Tribune, pour avoir obtenu des confessions de manière douteuse. Ce dont ils sont accusés cette fois, c'est d'avoir extorqué ces confessions à des enfants, car les 4 hommes avaient 16 ans à l'époque, et ce sans leur accorder d'aide juridique ni leur permettre de consulter des adultes de leur famille. L'un des plaignants affirme qu'il a signé des aveux, alors qu'on lui avait dit qu'il s'agissait simplement d'un document de routine qui mènerait à sa libération. Des aveux d'ailleurs qui ne concordaient pas, qui n'étaient étayés d'aucune preuve matérielle. Les quatre hommes réclament aujourd'hui une compensation financière qui n'a pas été précisée.
Un mot encore des États-Unis avec ces portraits de Michelle et Barack Obama qui s'installent à la National Portrait Gallery de Washington. Une tradition pour les anciens présidents.
Et des portraits pour la première fois commandés à des peintres afro-américains. Ils sont encensés par les critiques d'art, mais ils ont suscité de nombreux commentaires sur Twitter, s'amuse Politico. Le mur de verdure derrière le président Barack Obama étant par exemple une perche évidente pour les blagues sur l'histoire de l'ancien président américain avec la marijuana. Beaucoup de critiques aussi sur le visage de Michelle Obama, jugé pas franchement ressemblant.
Mais qui ressemble davantage, selon certains, à celui de Kerry Washington, l'actrice de la célèbre série Scandale qui se passe à la Maison Blanche, justement.
Ah oui, mais si le visage de Michelle Obama est insignifiant, écrit Politico, c'est aussi justement pour mettre en valeur cette longue robe qui occupe les trois quarts du tableau, une robe Millie, paraît-il, inspirée, raconte la créatrice au Washington Post, par un désir d'égalité des droits, d'égalité raciale, d'égalité LGBT, bref, une robe qui est, autant que son visage, une fenêtre sur l'identité de l'ancienne première dame, et peut-être même une fenêtre plus juste, estime Politico, peut-être aussi l'énoncé politique le plus frappant jamais trouvé dans les détails d'un portrait présidentiel. Newsweek, pour sa part, s'amuse du show télévisé de Jimmy Kimmel hier soir, qui imagine de quelle manière le président Trump pourrait, lui, être peint. Ce que je peux vous dire, Pauline, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vêtements. Suspense, un rendez-vous sur le site internet de RFI, sur le lien de cette revue de presse pour, eh bien, pour retrouver le lien vers cet article, justement, et vers les autres.
Marie, j'irai voir dès la fin de ce journal. En attendant, restez avec nous. On vous emmène au Pérou.
Port-au-Prince. 89.3 FM.
Cuisiner pour la bonne cause, c'est l'objectif de nombreux chefs péruviens qui, depuis août dernier, ont choisi de le faire à la télévision. Sous l'égide du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, avec l'aide de la télévision publique péruvienne, ces chefs proposent aux téléspectateurs des recettes contre la vie chère, contre l'anémie ou encore contre les désordres alimentaires. Notre correspondant au Pérou, Eric Sanson, l'a regardé avec attention.
Musique dramatique, scénographie léchée, grand chef péruvien attentif aux instructions de Palmiro Ocampo, le présentateur de l'émission qui est aussi l'un des leurs. Le programme Cuisiner pour une cause vient de commencer en faveur de jeunes musiciens pauvres de l'orchestre symphonique pour le Pérou. Palmiro Ocampo.
Ces jeunes, à cause de leur passion, négligent souvent une chose importante, leur alimentation.
Interrogé par les producteurs de l'émission, c'est le cas par exemple de Giordano González qui joue de la batterie.
Entre le déjeuner et le soir, en général, je ne mange rien. J'arrive chez moi vers 22h40, je suis trop exténué pour manger. Mes parents ne savent pas comment, malgré la fatigue, je peux faire tout ce que je fais.
Une fois planté le décor, pour Palmiro Ocampo, il est l'heure d'expliquer le défi du jour.
Il faut créer quelque chose qui leur donne le temps et l'énergie suffisante pour qu'ils atteignent leur objectif. Qui parmi vous va s'en charger ?
Celle qui va s'en charger s'appelle Betsy Elbornoz. Cette jeune chef est née dans le quartier populaire de Villa María del Triunfo, au sud de Lima. Elle vient d'ouvrir au rez-de-chaussée de la maison de son père un petit restaurant, El Populacho, le populaire. Faire du bon pour pas cher, c'est son domaine. Son frère Juan Andrés Albornoz le confirme.
Parfois au collège, et plus encore si tu n'as personne qui prend soin de toi, quand tu es jeune, tu négliges le premier repas du jour, le petit déjeuner. Nous, c'est notre sœur qui nous préparait notre Quaker, le pain, et ce qui allait avec, le yaourt. Elle a donc une longue expérience dans ce domaine.
Betsy participe à l'émission avec d'autant plus d'enthousiasme que le programme se veut beaucoup plus qu'une simple présentation de recettes de cuisine et cherche à résoudre de vrais problèmes de la population, notamment la plus pauvre.
Il y a de graves problèmes d'anémie, en particulier chez les bébés de 6 mois, les femmes enceintes. Il y a des cas de personnes qui ont été victimes d'anémie, qui ont été guéries, mais qu'il faut aider à mieux se nourrir pour qu'elles ne rechutent pas. Il y a aussi des problèmes d'obésité, de troubles alimentaires. Il y a des gens qui sont fatigués de manger toujours la même chose. Il y a aussi le problème des bouillies pour bébés. Les mamans ne savent pas quoi leur donner. Les bébés ne veulent rien manger et leurs parents sont à court d'idées.
Les chefs du programme travaillent avec un spécialiste du programme alimentaire mondial qui les aide à équilibrer leurs recettes. Dans un quartier pauvre au nord de Lima, la jeune nutritionniste Andrea Vasquez se félicite de cette initiative.
C'est génial, nous on ne peut pas parler à tout le monde. Par exemple, là je vais voir des habitants de ce côté du bidonville, mais et les autres? Les gens n'ont pas assez d'argent pour bien se nourrir. Ils sont fragiles et ont besoin de conseils que la télévision ou la radio pourraient nous aider à leur transmettre.
Filmée par les caméras de l'émission, Betsy a rencontré les jeunes musiciens et leurs parents pour connaître leurs goûts. Elle a d'abord travaillé seule pour leur faire une première proposition de goûter nutritif.
Dans ma recette originale, il y avait des raisins secs, mais ils n'aimaient pas, alors j'ai mis des figues. Après avoir mis des fruits secs, j'ai fait une sorte de barre énergétique, mais sous forme de galette. Et finalement, j'ai rajouté un granola avec du yaourt.
À la fin de chaque émission, le chef se rend chez les gens et les aide à préparer chez eux les plats proposés, pour être bien sûr que le public de l'émission pourra tirer parti de la recette. La première saison de l'émission est diffusée depuis août dernier sur les antennes de la télévision publique péruvienne. Eric Sanson, Lima, RFI.
Et tout de suite, l'actualité de l'Outre-mer. Et c'est avec la première. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Pauline.
En ce jour de Mardi Gras, c'est encore et toujours le carnaval qui fait le spectacle en ce moment aux Antilles, en Guyane.
Oui, on commence à Rivière-Salée, commune martiniquaise qui attendait depuis 20 ans de retrouver le Festisud, la grande parade de carnavalesque du sud de la Martinique. Une parade qui a connu un grand succès malgré la pluie. Reportage Fabrice Théodose.
Entre 10 et 20 000 personnes sur le parcours de 2,6 km de ce Festisud à Rivière-Salée. Une liesse populaire avec une parade ouverte par la reine de Rivière Pilote qui a été élue reine du Sud.
Je représente aujourd'hui Dame Fouillabin. Je suis heureuse d'avoir représenté ma commune.
Juste derrière elle, le groupe Zépis de Rivière Salée, mené par Meryl, contente de jouer à domicile.
C'est un honneur pour nous, j'ai envie de dire.
L'organisation du Festisud est menée conjointement par l'ACSM, l'association Carnaval Sud-Martinique, et le COR, le collectif des orchestres de rue, dont Raoul Ligny est le président.
La masse populaire est là, ça répond donc à un vrai besoin de la population. C'est un produit typiquement martiniquais.
Petit bémol, pas beaucoup de mariages burlesques en ce lundi gras. Et parmi les rares, Pierre et Marlène.
Peut-être qu'il y a trop de pluie, vous savez. Pourtant dit mariage pluvieux, mariage heureux. Peut-être que la tradition se perd ou je ne sais pas.
En espérant tout de même que les Diables Rouges seront bien de sortie ce mardi gras.
C'est également, semble-t-il, sous la pluie que se dérouleront cet après-midi les parades du Mardi Gras en Guadeloupe, à Basse-Terre et Pointe-à-Pitre. L'occasion pour notre consoeur Christelle Martial d'un entretien avec Joël Raboteur, universitaire et premier président de l'Office du Carnaval de la Guadeloupe.
Le carnaval, tel qu'on le connaît aujourd'hui, a beaucoup évolué chez nous. Cette tradition, importée par les premiers colons européens, fait aujourd'hui partie intégrante de notre culture. Joël Raboteur.
Le carnaval, dont les origines remontent depuis la Rome ancienne, eh bien, avait touché également donc, l'Europe et notamment la France. Et bien sûr, ces colons arrivaient avec leurs mœurs.
Une vieille tradition qui, peu à peu, évolue vers sa forme contemporaine.
Va succéder donc, ce qu'on va appeler les charivaris. Donc les gens descendent dans la rue, on sait que c'est la période du Mardi Gras par exemple, eh bien on prend une vieille casserole et puis on descend dans la rue. On retrouve ça à Basse-Terre. Le carnaval, je dirais, spontané. Il n'y avait pas encore d'organisation. Arrive la période des associations. 1906, 1909, les premières associations vont être créées. Et qui dit association dit déjà début structuration. L'époque Badabadeline, le carnaval en satin, il y a la bourgeoisie pointoise qui apparaît.
Aujourd'hui, ancré dans une diversité, le carnaval guadeloupéen est un rendez-vous populaire dans lequel l'esthétique se révèle comme pour raconter les époques.
Bon après-midi, Pauline. À demain.
Merci, Benoît Ferrand. À demain, c'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci de l'avoir suivi. Merci à Tiffany Minta de l'avoir réalisé. N'oubliez pas, vous nous retrouvez sur le site internet de RFI, www.rfi.fr. Et sur notre page Facebook, vous pouvez partager les contenus.
L'Institut français vous invite à participer à une vaste consultation citoyenne pour exprimer vos propositions en faveur du français et du plurilinguisme dans le monde. Vous avez jusqu'au 20 mars pour déposer votre idée en ligne sur le site monidéepourlefrançais.fr. en partenariat avec France Média Monde.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine.
Demain,
la flore vaginale, ces micro-organismes qui protègent l'intimité féminine.
Jeudi,
le cancer de l'enfant, comment ces maladies rares sont-elles prises en charge?
Appelez-nous au 33 1 84 22 75 75 ou écrivez-nous à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé,
Caroline Paré.
Du lundi au vendredi, à partir de 9h10 TU.
RFI.